Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Crésus. Vous le savez, Crésus accompagne des gens en grande difficulté financière, des personnes qui sont surendettées, qui viennent souvent à Crésus au bout du rouleau. Et aujourd'hui, c'est l'occasion effectivement d'écouter leur parcours, d'écouter leurs difficultés à vivre au quotidien, mais aussi d'entendre leurs solutions, les solutions qu'elles ont pu trouver. Et nous avons aujourd'hui en studio Marilyn Wächter de la Chambre de consommation d'Alsace. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Et Amélie Imbert, qui est juriste aussi, comme Marilyn, mais au réseau Crésus, juriste animatrice au réseau Crésus fédéral. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Voilà, et sans tarder, nous allons commencer avec un prénom un peu particulier, Ramsès. Allô ?
Oui, je suis là, je vous écoute.
Voilà Ramsès, bonjour. Alors, un peu de grésillement là sur la ligne, ça va un peu mieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous amène à témoigner sur Radio Crésus et à nous parler un peu de votre parcours, de vos difficultés financières aujourd'hui ?
Oui, écoutez, j'étais sous la dette et comment je suis allé au Crésus, il m'a aidé un petit peu. Et on a fait un dossier parce que j'avais les dettes et presque 14-15 000 comme ça.
Oui. Oui. Et oui, 15 000 euros 15 000 euros de dette, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui. Un dossier de surendettement, vous avez fait?
Voilà, c'est ça. Voilà.
Vous étiez venu directement à Crésus?
Je suis arrivé directement, j'ai rempli le dossier, tout ça, Crésus m'a aidé beaucoup.
D'accord.
Et maintenant, je suis, comme je vous dis là, comment...
Vous attendez aujourd'hui?
Oui.
Est-ce que vous avez déjà eu une réponse de la Banque de France, en tout cas de la Commission?
Oui.
Oui, ils vous ont répondu?
Oui, ils m'ont répondu pour 24 mois. 24 mois, j'ai reçu une lettre là, comment...
Un moratoire?
Voilà, c'est ça. C'est,
pour l'instant, c'est gelé les dettes, c'est ça? Vous ne payez rien?
Non.
Non. Alors, dites-nous un peu comment vous en êtes arrivé à accumuler 14 000 euros. Vous avez de dettes, vous avez aujourd'hui des ressources?
Oui, normalement, avant, qu'est-ce que je vous dis? J'ai deux enfants avec ma femme et on ne travaille pas. J'étais au accident de travail. Après, comme j'étais intérimaire, et après, c'était difficile, hein, difficile pour payer les dettes. C'est pas,
d'accord.
C'est pas le problème.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup d'intérimaires sont aujourd'hui victimes un peu des effets de la crise. On voit que ça a été un des premiers, profils de salariés qui a été touché. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi, cette baisse d'activité de façon sensible? Vous l'avez senti?
Oui, j'ai senti parce que, comme, qu'est-ce que je vous dis, j'ai travaillé avec les intérim, pas tout le temps, 2-3 jours, une semaine, 15 jours, fin d'émission.
D'accord. Et dans quel domaine exactement?
J'étais au bâtiment, là.
Le bâtiment, d'accord. Et donc beaucoup, un repli de l'activité, moins d'activité, et du coup, vous étiez... avec des difficultés financières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de payer votre loyer? Ça va, ça, ou pas?
Ah ben oui, ça va, maintenant je paye quand même, hein. Tous les mois je paye. Mais qu'est-ce que je vous dis là? J'attends, je suis inscrit partout, intérim et tout ça, et comment je suis, même je suis handicapé, 50%.
Oui.
Sans payer au Cotoref, parce que normalement j'ai cassé les mains.
D'accord.
Et j'ai fait une demande au Cotoref et plus j'étais gaucher, à la main gaucher, j'ai cassé les mains gauches.
D'accord.
Et comment j'ai fait une demande, il m'a donné 50% invalidité.
D'accord.
Sans toucher, on touche rien du tout. Normalement, je suis inscrit toujours à l'intérim, mais il n'y a pas de travail. Toujours, j'ai des demandes et tout ça.
Alors, dites-moi, avant, quand les choses allaient bien, on va dire, quand vous travailliez, que vous aviez des ressources, vous gagniez combien par mois à peu près?
Ben, normalement, le SMIC, là, comme tout le monde, là, le SMIC.
Ouais, donc à peu près combien? 1100 euros, 1200, 1300 euros?
1100 euros, ben, quelque part, 1200.
D'accord.
1250.
D'accord. Et là, aujourd'hui, vous avez une baisse de ressources qui est importante, hein, puisque vous dites vous êtes en invalidité deuxième catégorie. Normalement, vous devriez toucher une partie d'invalidité. Vous me dites que vous n'avez rien, c'est ça?
Non, non, parce que 50%, il m'a donné 50% d'invalidité.
Au niveau de la Cotorep, hein, oui. D'accord.
Voilà, ça veut dire qu'il ne paye pas. Normalement,
c'est 80%.
Avec, 80%.
On est d'accord.
80%.
On est
voilà.
D'accord. Alors, vous aviez souscrit des crédits, vous aviez. Quelle était la nature de vos dettes?
C'était les logements, il a monté beaucoup. Après, j'avais quelque chose comme crédit, on n'arrive pas à payer. L'assurance aussi.
Oui.
Il a monté, tout ça.
D'accord.
Et puis, c'est ça, on avait des dettes là, comme ça. Hein. Parce que comme on n'arrive pas à payer, les juges là, ils montent les prix.
Il y avait des audiences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vos créanciers, c'est-à-dire ceux à qui vous devez de l'argent, ils sont venus vous voir, ils ont dit donnez-nous notre argent, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et comme il y avait un juge qui est passé chez moi.
Un huissier peut-être. Oui.
Oui, comme j'étais ici, comme j'étais pas là, il a discuté avec mon fils il y a 13 ans.
Oui.
Quand même, ils ont dit, vous pouvez préparer votre affaire et vous pouvez partir. Tout ça
c'est pour l'expulsion. Alors, c'était pour l'expulsion
voilà,
locative, ça.
Voilà.
Voilà, vous êtes... Oui. Une question, vous êtes dans un logement auprès d'un propriétaire qui est une personne physique ou auprès d'une personne...
Non, c'est habitation moderne, c'est ça.
D'accord, habitation moderne, donc c'est un bailleur social.
Voilà.
Et vous aviez combien d'arriérés de loyer? Combien de loyers qui n'étaient pas payés?
J'avais 3800.
3800. Ça fait combien de mois, ça, 3800? Ça fait
3800, c'est à peu près...
6 mois.
8 mois.
14 mois, 12, 13, 14 mois, comme ça.
D'accord, donc vous avez beaucoup d'APL, manifestement. Alors, aujourd'hui, vous aviez dit que, OK, vous avez déposé le dossier de surendettement, vous avez une réponse, vous avez un moratoire de 24 mois qui vous permet de geler le paiement de vos dettes qui ont été portées dans le dossier. Est-ce que la question de l'expulsion locative, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce que le bailleur, habitation moderne, est-ce qu'ils vous disent toujours quitter le logement ou ça a été arrêté, ça?
C'était arrêté, ça, parce que qu'est-ce que je vous dis? Normalement, je suis allé là-bas, comme j'ai dit, écoutez, on a fait un demande là, on a fait un demande chez vous et comme... Je sais pas, normalement maintenant je paye tous les mois.
Un peu.
Comme. Je paye parce que normalement je paye comme tous les mois avec les appels et tout ça.
D'accord.
Je paye de ma poche 200 euros par mois.
En plus.
Et les dettes, c'est. Il reste quand même les dettes là.
D'accord. Donc vous remboursez votre dette de loyer, vos arriérés de loyer, un peu tous les mois en plus, c'est ça?
Non.
Non.
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non.
J'ai payé comme ça, juste comme tous les mois, 200 euros.
À qui vous les payez, ces 200 euros?
J'ai payé aux habitations modernes parce que j'ai une partie des appels, parce que normalement, comme maintenant, on ne travaille pas, moi et ma femme, on touche les RSA.
Oui.
Et tous les mois, j'ai payé quand même...
200 euros.
J'ai payé les loyers, 200 euros, l'électricité, tout ça.
D'accord. Ça, c'est...
J'ai payé.
Mais ça, c'est les charges courantes, ça. C'est normal.
Voilà.
Ok. Alors, il faut savoir, hein, donc c'est important que, même s'il y a un plan qui est mis en place, un plan de redressement au niveau de la Banque de France ou un moratoire, ben, les loyers courants continuent à les payer. Hein, donc, ça, c'est normal. Sinon, on s'expose à la poursuite qu'on connaît, hein, qui consiste à réclamer les arriérés de loyer et ensuite, dans les cas extrêmes, l'expulsion locative. Alors, c'est vrai que le dossier de surendettement permet, dans certains cas, d'enrayer l'expulsion locative. C'est pas automatique, mais on peut solliciter la commission pour qu'il y ait effectivement une action pour enrayer cette procédure. En l'occurrence, là, dans votre situation, il semble bien que ça a porté son effet, puisque vous êtes toujours dans le logement. Le bailleur a manifestement cessé les poursuites. Et les choses, on l'espère, devraient rentrer dans l'ordre pour vous, dans une certaine mesure, à voir si, dans les 24 mois, vous arrivez à meilleure fortune pour vous sortir de la difficulté. Alors, Ramsès, j'ai une question à vous poser concernant l'accompagnement Crésus, et on va terminer là-dessus. Comment vous avez été accueilli à Crésus? Quels sont les conseils qu'on vous a donnés? Et quels sont, vous, les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs? Je vous entends de très loin, là. Oui.
Ben oui, écoutez, parce que le téléphone est... écoutez, normalement, je suis allé au Sécurité sociale, et comme j'ai vu en face de moi une marque Crésus, là, et tout ça, je suis allé demander là-bas, comme
et voilà.
Une demande, là, il m'a donné un formulaire, et j'ai rempli, et tout ça, c'était... Je ne sais pas comment s'appelle le monsieur
qui vous a accueilli.
Qui s'occupait de nous.
Oui.
Voilà. Il m'a proposé en question, est-ce que, comme maintenant, qu'est-ce que j'ai dit?
Oui.
C'était là. Comment j'ai dit, j'ai amené les papiers, comment j'étais au accident de travail.
OK.
Il m'a dit, oui, écoutez, on pouvait aider. On a rempli les papiers. C'est-à-dire j'ai amené tout, les impôts et tout ça, etc. J'ai amené tous les papiers, qu'est-ce qu'ils
oui, c'est important ça, hein, parce que vraiment quand on monte un dossier de surendettement, il faut vraiment être complet sur les justificatifs. Sans cela, on perd du temps, hein. Vous perdez du temps, la commission va vous redemander des papiers, etc. Donc ça ne va pas dans le bon sens, on va dire. Donc ça, c'est vraiment important. Un dossier complet. Alors on l'a bien compris dans votre situation, je dirais que la bonne foi n'était pas remise en cause. Hein. Vous avez perdu des ressources suite à un accident de travail, une complication au niveau de la main gauche, etc. Donc là, je dirais que le dossier... Au niveau du surendettement, il est passé sans difficulté. Alors, sur le conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Ben écoutez, normalement, comme j'ai dit à tout le monde, s'ils sont à la dette, il faut passer chez vous.
OK. Donc, si vous avez des dettes que vous n'arrivez pas à régler, si vous avez des difficultés financières, venez à Crésus et on vous aidera à comprendre... comment ça se passe et surtout à vous trouver une réponse qui soit adaptée à votre situation. Ramsès, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous remercie.
Merci, hein.
Et puis à bientôt sur Radio Crésus. Au revoir.
Au revoir, merci, bonne journée.
Merci.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes avec nous sur Radio Crésus et nous enchaînons avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Voilà Mehdi, donc vous avez souhaité et vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus.
Oui, entendu.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire?
Bah écoutez, j'avais un souci financier. Parce que vraiment, j'ai perdu mon travail.
Oui, je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui.
Oui, je travaillais et j'ai perdu mon travail. J'ai eu un licenciement économique et mon patron, il n'a pas respecté le licenciement. Et en fait, j'avais des crédits et en plus, j'avais assurance chômage et assurance vie.
D'accord.
Dans une société de crédit comme Finaref.
D'accord. Et juste une question sur votre emploi. Vous étiez dans quel domaine d'activité?
Dans le bâtiment.
Dans le bâtiment?
Oui.
D'accord. Un métier en particulier, un corps de métier en particulier?
Ah oui, j'étais de spécialiste dans salle de bain. Et c'était une entreprise qui travaillait comme sous-traitance de la paire, un magasin de la paire.
D'accord, la paire, oui. Ouais.
Oui, alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. Il m'a licencié.
Licencié économique, donc en principe il y a une baisse d'activité qui justifie un licenciement économique. Alors peut-être.
Oui. En fait, comme liquidateur. Il a enquêté sur l'entreprise depuis que je travaillais dans cette entreprise et il avait des bénéfices.
Oui.
après le licenciement, j'ai eu des difficultés.
D'accord.
En fait, oui.
Oui. Donc le licenciement a eu lieu quand? Il y a longtemps?
C'était exactement
En
août
2013?
l'année 2005.
2005?
Oui.
Oui, donc c'est ancien. Vous avez retrouvé une activité depuis ou pas?
Ah ben, je travaillais par l'intérim, mais je n'arrivais pas de retrouver
D'accord.
d'entreprise que pouvait m'engager pour longtemps.
D'accord.
Pour donner des CDI, parce que vous savez, après, on est tombé dans la crise économique. Beaucoup d'entreprises, ils méfiaient pour embaucher beaucoup de personnes. Alors,
D'accord.
je travaillais comme dans le métier intérim.
Ok, donc si je comprends bien l'élément déclenchant, ça a été 2005 où vous avez perdu c'est un CDI que vous aviez.
Oui,
Un contrat à
j'avais
durée
un CDI.
indéterminée. Donc là, ça a basculé. Vous perdez votre contrat à durée indéterminée. Ensuite, vous enchaînez sur des contrats d'intérim.
Oui.
Hein, c'est pas simple parce que l'intérim, ben, on est très soumis, je dirais, aux fluctuations de l'activité. Hein, et
Oui.
vrai, c'est vraiment, on joue vraiment le tampon. Hein, quand il y a de l'activité, ça va. Mais quand il n'y en a plus, ben, on est les premiers concernés par la difficulté. Alors, pour revenir sur vos difficultés financières, donc vous avez décidé à un moment donné, de prendre votre problème à bras-le-corps, c'est ça?
Oui, justement, comme j'ai eu un licenciement d'entreprise, il n'a pas respecté le
Licenciement?
licenciement.
Oui.
En fait, la société de crédit, Compunaref, il n'a pas un bureau, un siège ici à Strasbourg.
Oui.
Et par téléphone, je contactais et ça manquait de certains documents, comme je cotisais pour assurance chômage et assurance vie. En
D'accord.
fait, je n'arrivais pas à bénéficier de cet avantage.
D'accord, donc
Et
vous aviez souscrit une assurance chômage dans le cadre de vos crédits à la consommation et
voilà.
que vous souhaitiez mettre en œuvre suite au licenciement économique que vous aviez subi, c'est ça?
Justement, et même à l'époque acidique, il m'a pas indemnisé de 80 ou 90% de mon salaire. Je vous reçoyais quasiment 67% de mon salaire.
D'accord.
Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de difficultés financières à rapport de licenciement.
Oui, et la baisse de ressources, elle était de combien alors? Parce que là, on parle de pourcentage, mais en termes d'euros, vous touchez
En
combien
grosso
avant?
modo, avec toutes les dettes que j'avais, c'était 25 000 euros.
Ça, c'est les dettes que vous aviez.
Toutes les dettes
Oui.
que j'avais.
Et quand vous pouviez payer ces dettes, vous gagniez combien par mois à peu près?
Ah,
C'était.
mais moi, je gagnais quasiment 1 700
D'accord.
euros net.
Oui. Et après, ça a chuté. Donc, vous étiez quoi? 1200, 1300? Un peu
Même
moins?
pas.
Même pas?
Je touchais presque quasiment 800 euros de chômage
D'accord.
ou.
Oui, on
Grosso
peut.
modo, on peut dire 900 euros. Et avec la loyer que j'avais
Oui.
et
Et votre loyer, il est
beaucoup
de combien?
d'intérêt,
Votre loyer?
la loyer, c'était de 500 euros.
Oui, donc il vous reste plus que 400 euros pour boucler le mois, tout compris. Donc on comprend que c'est
Voilà.
difficile. Alors quand vous
Bon.
avez effectivement décidé d'avancer dans la résolution de vos problèmes, vous êtes allé voir Crésus tout de suite. Comment vous êtes arrangé?
Bah déjà je contactais Crésus, je fais mon dossier, mais comme ça manquait encore dans le dossier de certains documents,
Oui.
et j'ai envoyé moi j'ai déposé mon dossier
Il y a longtemps?
oui, c'était 2008.
D'accord. Donc là, vous avez eu.
Ça veut dire 2008, début 2009,
D'accord.
et après, voilà, j'ai eu une convocation par un juge qui n'a pas accordé mon dossier.
Donc ça a été refusé.
Oui, c'était refusé.
Donc irrecevable par le juge, d'accord.
Oui,
Et
mais après, j'étais obligé de faire appel au cours de cassation.
vous avez fait un pourvoi en cassation, d'accord.
J'étais obligé de prendre un avocat, vous savez très
Bien
bien.
sûr, un avoué, oui,
Et
auprès de la
c'était pas
cour, oui.
dans le cas que j'arrivais de faire. Alors en ce moment, je me retrouve encore en difficulté parce que par le temps qui passait, je travaillais physiquement dans certaines entreprises, entre guillemets, qui travaillent que de physique, à la rapport de travailler avec des outils pour faciliter le travail et gagner du temps et gagner de l'argent. Et j'ai maintenant un souci de santé.
D'accord.
J'ai de l'arthrose dans le bras et chaque mois,
Donc.
j'y vais chez rhumatologue et j'ai des infiltrations à faire.
D'accord. Donc ça, c'est suite effectivement au fait que vous ayez accepté des travaux de force, on va dire, hein, c'est ça, puisque l'entreprise,
Pas de
comme
choix,
vous.
mais
Oui.
j'étais obligé de
D'accord.
travailler et rembourser mes dettes.
Alors, on voit effectivement qu'il y a un enchaînement dans les difficultés, hein, et quand on essaie de trouver des solutions, c'est pas toujours le plus adapté puisque ça a après des conséquences sur la santé. Alors moi, ce qui m'intéresse, et je pense que pour nos auditeurs aussi, c'est de bien comprendre après au niveau du cheminement du dossier de surendettement. Donc vous aviez bien expliqué, ok, ça a commencé en 2005, bouleversement, ensuite de l'intérim, vous arrivez plus ou moins à joindre les deux bouts. 2008, vous déposez un dossier de surendettement. Malheureusement, certainement des créanciers contestent ce dossier. Et
C'est juste.
vous allez devant un juge qui va vous dire, ben non, le dossier n'est pas bon pour vous. Alors, deux motifs, soit vous n'êtes pas surendetté, mais ça m'étonnerait, soit l'autre motif, c'est la mauvaise foi. Donc, ils ont dû invoquer la mauvaise foi et elle a été retenue. Je pense que c'est le motif, hein, qui a été déterminant dans votre affaire. Et vous avez donc poursuivi votre activité tant bien que mal, avec les conséquences pour votre santé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand je vous parle, quelle est votre situation par rapport à ce dossier de surendettement? Est-ce que vous en avez redéposé un autre? Est-ce que actuellement vous
Ce
êtes.
que je veux faire, mais entre-temps, comme j'ai une voiture, hein, moi je voulais vendre cette voiture, hein, alors je suis allé chez un garagiste pour estimer le valeur de ma voiture. Hein.
Oui.
Et comme je considérais ça coûtera 2000 euros, et le prix que la ruche qu'il m'a donné, une suite officielle,
Oui.
il a basé sur 1700 euros de valeur de ma voiture.
Et
Alors moi,
pourquoi vous voulez vendre votre voiture?
il faut que je suis obligé de régler mes dettes.
Pour trouver de l'argent, d'accord.
De l'autre côté aussi, dans le courrier, c'était indiqué, même le juge, même le gestionnaire de Banque de France, il a estimé ma voiture à 10 000 euros.
10 000 euros et là vous la vendez 1 700 euros, c'est ça?
Justement, je trouve ça un peu scandaleux. Comment il arrive à estimer ma voiture à 10 000 euros, qu'une site officielle qui s'appelle
Bon,
l'Argus,
oui,
il
on peut
estime
peut-être
à
demander,
1 700 euros?
on peut peut-être demander à Marine Wächter, la Chambre de consommation d'Alsace, sur l'estimation du prix d'un véhicule, hein.
Oui, il faut simplement savoir que c'est quelque chose qui est relativement difficile à déterminer avec précision, dans le sens où l'Argus, c'est un référentiel auquel tout le monde sur lequel tout le monde va se fonder dessus, mais en fait, c'est simplement une cotation qui est publiée par un journal officiel qui s'appelle l'Argus, mais qui n'est absolument pas une contrainte ni pour les vendeurs ni pour les acheteurs. On peut aller au-delà, on peut aller en dessous. Donc, selon les estimations des uns et des autres, il peut y avoir des variations par rapport à cette cotation qui est publiée, hein. Ça,
Oui,
malheureusement.
mais je comprends pas une voiture qui est estimée à 1 700 euros par une site
Je comprends bien, mais.
officielle, que un gestionnaire de Banque de France il donne
Ça
une
peut
valeur de
être.
10 000 euros.
Oui, peut-être que là, il y a eu une surévaluation aussi, hein, au niveau de la Banque de France, mais dans le cas actuel, vous auriez peut-être intérêt à la faire évaluer par un ou deux autres garagistes, hein, pour voir s'il y a des différences
Justement,
selon
je
les uns et
suis
les
allé
autres.
même dans certains garagistes et même les garagistes, le prix de la reprise, c'était encore inférieur de 1 700
D'accord.
euros que l'Argus qui m'a donné.
Et vous n'avez
J'ai allé
pas.
qui voulait prendre pour 1 500 euros.
Ouais. Et vous n'avez pas essayé de vendre ça directement de particulier à particulier, sans passer par un garagiste. Parce que souvent,
Bah
c'est plus
écoutez, moi
simple.
j'ai eu une histoire de ça aussi. J'ai acheté une voiture récente Et après, je suis descendu à Marseille et à Bioport et m'a lâché.
Oui.
Et j'étais 3 ans en procès, même duré 4 ans en procès pour recevoir l'argent que j'ai dépensé pour le frais et pour l'achat. Ça coûtait presque 17 000 euros cette voiture.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut, être vigilant hein, sur les achats entre particuliers. Oui, on n'est pas à l'abri d'actions pour vice caché, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, Mehdi, c'est que concernant l'estimation de votre véhicule, notamment par la Banque de France, enfin en tout cas la commission de surendettement, il faut lui donner aussi les moyens d'évaluer le bien. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous dites que vous avez une voiture de telle marque, telle année, tel kilométrage, vous pouvez joindre dans votre dossier de surendettement la cote Argus. Hein. Ça leur permet aussi, eux, de prendre en compte cet
J'ai
élément.
Donné tout.
Voilà.
J'ai donné tout. Ça veut dire que je donnais ma carte grise
oui, tout à fait.
Banque de France dans mon dossier.
Ils le demandent, c'est vrai. Oui, vous avez raison.
Et après, je donnais des papiers imprimés officiels par un garagiste de l'entreprise, par l'Argus aussi.
D'accord.
Plus le devis du garagiste.
Oui, donc vous aviez tout fait. Tout était en ordre. Oui, on est bien d'accord. D'accord.
Mais dans le courrier que j'ai reçu par la Banque de France, j'étais pas dans le bon voie.
D'accord. Alors aujourd'hui, là, vous n'avez pas de dossier de surendettement en cours. Vous êtes soumis au droit commun des poursuites par vos créanciers, c'est-à-dire que les créanciers vont vous demander l'argent.
Bah, et ils le font temps, je reçois.
Tout le temps. Oui. D'accord. Et comment vous leur... on va terminer sur cette question. Comment aujourd'hui vous faites face à ces créanciers? Vous leur donnez, vous vendez votre voiture pour pouvoir en payer certains. Et pour les autres, comment vous faites?
Ah, écoutez, je fais le minimum que j'arrive et en ce moment, comme je fais de formation auprès de AFPA, et comme j'ai travaillé 5 dernières années, je touche en grosso modo presque 600, plus une RSA que je touche, c'est diminué, et le moitié je touche, et ça donne 800 euros de revenus.
D'accord.
Et 20 euros là, 20 euros de bavade, et j'arrive à payer des 20 euros partout, on
D'accord.
peut dire, hein, et que j'arrive à garder une situation qu'il ne saisit pas ma voiture parce que j'ai besoin pour aller travailler par l'intérim. Parce que, par exemple, l'intérim me propose travailler chez des.
Bah oui, c'est pas sur place, hein, donc il faut que vous déplaciez. Les transports en commun. C'est pas toujours. Oui.
Alors, je suis obligé de prendre de ma voiture pour faire le trajet.
Voilà. Alors bon, vous êtes confronté à un problème, c'est vendre votre voiture pour payer vos créanciers ou la conserver pour mener une activité salariée. Et par ailleurs, si une saisie est opérée sur votre véhicule. Alors, il faudra peut-être à ce moment-là vous défendre, mais il faut que vous soyez clair aussi, vous, sur est-ce que je garde mon véhicule ou pas. Parce que d'un côté, vous nous dites « je veux le vendre », c'est ça ?
Oui.
Et de l'autre côté, vous en avez besoin pour travailler. Donc là aussi, il faut être clair sur les choses. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans votre situation actuelle, manifestement, un dossier de surendettement pourrait être une réponse, parce que manifestement, avec 800 euros par mois, et considérant vos dettes hein, dont vous avez parlé 15 ou 20 000 euros voire plus, il y a matière à faire. Toute la question, c'est celle de votre bonne foi, et ça qu'on pourra encore étudier pour mener à bien un nouveau dossier de surendettement.
Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux me libérer un peu parce que je suis trop occupé par mon formation. On fait 35 heures par semaine et ça ne me donne pas de temps libre.
Il faut trouver un peu de temps parce que ça prend du temps de faire un dossier de surendettement, mais c'est pas du temps perdu.
Oui, donc, je suis en absence aussi en formation et je ne peux pas toucher mon salaire non plus.
On est bien d'accord, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais en tous les cas, sachez que nos portes à Crésus vous sont ouvertes hein, et dès que vous avez le temps. Et l'envie d'avancer par rapport à ce dossier, n'hésitez pas, contactez-nous. Si vous aviez un dernier mot, Mehdi.
Le dernier mot, ça veut dire que avec toutes les difficultés que j'ai eues, j'ai eu des traumatismes aussi.
Oui.
Bon, mais imaginez qu'il y a une personne qui est chassée de son pays d'origine pour n'importe quelle raison.
Oui, vous êtes de quelle origine ?
Je suis d'origine iranienne.
D'accord.
Alors, moi, je suis chassé par l'extrémisme, par les politiques de certains pays riches. Entre guillemets, on n'entre pas dans les détails. J'étais comptable dans mon pays et ici, quand je suis venu, j'ai choisi de travailler dans les bâtiments parce que depuis 98 jusqu'à...
Vous êtes venu en France dans le cadre de l'asile ?
Oui, c'était l'année 98.
D'accord.
En France et j'ai pas obtenu mes papiers jusqu'à l'année 2003.
D'accord.
Alors, ça fait 5 ans que j'étais sans papier, alors comment vous pouvez imaginer pour nourrir et vivre ?
Oui, on entend
c'est
bien.
Pas évident.
On est bien d'accord. Alors, c'est vrai que là, c'est l'expression de votre parcours, de votre souffrance aussi. Hein. Si pour nos auditeurs, là, pour conclure notre interview, vous aviez quelque chose à leur dire aujourd'hui, en deux mots.
En deux mots, écoutez, il faut faire très attention de nos dépenses et nous de revenus.
Oui.
Vraiment, en ce moment, on est dans une difficulté. Économie et financière partout. Il faut penser aux centimes.
Oui.
Bah, écoutez, moi je souhaite que personne qui entre dans cette situation, parce que vraiment c'est détruisant. Et ça peut être détruire la famille et ça peut donner encore plus grave. On entend souvent.
Mehdi, merci pour votre témoignage poignant. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite et puis du succès dans votre formation, bien sûr. Et n'hésitez pas à venir à Crésus dès que...
Merci. Il ne faut plus jamais baisser les bras, c'est tout.
Voilà, ne baissons pas les bras alors. Merci pour ce mot de la fin, Mehdi. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
À tout le monde, au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Et nous avons avec nous Jeanne pour un nouveau témoignage sur Radio Crésus. Jeanne, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'ai avec moi Marilyn Wächter qui est juriste responsable à la Chambre de consommation d'Alsace.
Oui, bonjour Jeanne.
Voilà.
Bonjour.
Alors dites-nous Jeanne, donc vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation ?
Oui, absolument. Donc, je viens de recevoir hier de la Banque de France l'acceptation de mon plan de surendettement. J'en avais déjà un grâce à Crésus qui avait déclenché la façon d'obtenir le dossier. Et comme je suis à la retraite... j'ai du mal à rembourser ce que je dois, qui sont 2 prêts immobiliers. Et donc, j'ai dû refaire un dossier pour revoir ma situation. Et voilà, mon nouveau plan a été accepté.
Donc, si je comprends bien, vous étiez déjà dans le cadre d'un premier plan, c'est ça ?
Exactement, oui.
D'accord.
Ma situation était désespérée en 2011. Je suis allée voir Crésus et là, on m'a un petit peu débrouillé l'affaire et on m'a expliqué comment faire, remplir un dossier de surendettement qui a été accepté par la Banque de France.
Donc ça, c'était en 2011, donc des conseils.
Oui.
Donc vous étiez venu lors d'une permanence...
Absolument, oui.
D'accord, donc effectivement, dans le cadre de ces permanences... Nous visons avec vous le contenu du dossier, comment vous l'avez mis en œuvre, et on vous donne des conseils pour mieux le présenter et surtout pour qu'il soit complet, parce que c'est fondamental.
Voilà, c'est tout à fait ça. Ensuite, j'ai rempli ce dossier, je suis retournée, on m'a dit oui, c'est bien, voilà, alors maintenant, vous le déposez. À la Banque de France, un de mes créanciers ensuite a fait un peu de, comment dire,
résistance.
De l'obstruction.
Oui,
donc
la résistance.
Je suis retournée voir Crésus dans un cadre juridique pour voir un avocat parce que l'un de mes créanciers voulait absolument m'obliger à vendre mon appartement.
D'accord.
Et donc, on m'a expliqué, voilà, je suis allée me défendre au tribunal toute seule comme une grande, et j'ai obtenu gain de cause.
Donc on vous a préparé à l'audience à Crésus, c'est ça ?
Absolument, oui, oui, parce qu'on m'a dit, écoutez, vous pouvez y aller, vous n'avez pas besoin d'avocat.
Oui.
Parce que face à un avocat de métier, bon, on peut quand même... argumenter et se défendre.
Oui, oui, oui. Et donc là, vous aviez effectivement trouvé les bons arguments, les arguments vous concernant.
Absolument.
Et puis,
oui.
manifestement, vous avez une voix claire et je dirais, vous semblez avoir un esprit assez clair aussi pour bien expliquer les choses. Ça, c'est important. Hein.
C'est très important parce que je me suis rendu compte en allant au tribunal, bon, parce que les avocats font leurs affaires, hein.
Aussi.
Donc la première fois, on fait reporter parce qu'on n'a pas eu le temps de voir le dossier, alors que vous-même, vous êtes dans un état de stress important. En allant au tribunal, je me suis rendu compte que, oh là là, je n'étais pas dans la situation la pire du monde. Hein. Mais fallait quand même défendre
il faut se défendre,
ses propres intérêts, quoi.
Exactement. Alors, si j'ai bien compris, donc 2011, ok, premier dossier. Votre retraite, elle arrive quand exactement?
Alors, j'ai pris ma retraite en septembre de 2013, donc à cette rentrée-là,
oui.
Puisque j'étais enseignante. Et effectivement, bon, j'ai moins de revenus.
Oui.
Donc, je suis retournée voir la même dame chez Crésus, qui m'a dit, oh là là, oui, 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 il faut refaire un nouveau plan.
Un nouveau plan.
On peut le revoir. Donc, j'ai pris le dossier, j'ai rempli, et voilà, l'affaire suit son cours.
Alors, c'est important.
Et comme mes créanciers se sont aperçus, quand même, au cours du premier plan, que je payais mes dettes régulièrement, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'obstruction.
Pas de contestation. Alors c'est important de le rappeler aussi à nos auditeurs que même si on a un plan qui est déjà fixé dans le cadre d'un premier dépôt de dossier, si un événement arrive qui vous fait réduire vos ressources,
oui.
On peut redéposer un dossier.
Exactement. Bon, je j'y croyais pas trop en me disant oui, bon, je vais le faire, mais effectivement, ils prennent en compte et il n'y a pas de souci, quoi.
Oui.
Chaque fois que Crésus m'a donné un conseil, je l'ai suivi, même si au départ, je n'y croyais pas beaucoup. Et ça marche à tous les coups.
Alors, c'est vrai qu'on a une expérience en matière de procédure de surendettement, puisque c'est notre quotidien, malheureusement, hein, d'accueillir des gens surendettés. On sait comment présenter les dossiers.
Oui, parce que, par exemple, tout au début, on m'a dit, oh là, il faut changer de banque, parce que sinon, on va continuer à prendre les sous, etc. Et effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Hein.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des mesures pour protéger les personnes.
Oui.
Hein, et en l'occurrence, là, effectivement, les conseils d'un moment donné de changer de banque, ça peut être un conseil qu'on donne. Alors, ce n'est pas systématique, loin de là, mais c'est vraiment des conseils adaptés. Et en l'occurrence, là, ça a été votre cas. Alors, sur le deuxième dépôt, donc, vous nous dites que tout récemment, vous avez eu la recevabilité.
Oui, exactement, oui, oui.
Alors, c'est important, cette recevabilité, puisque on le sait qu'elle emporte des effets importants, au sens de, on arrête des poursuites, mais pour vous, il n'y en avait pas, puisque vous étiez déjà dans un plan. Et surtout, aujourd'hui, les taux d'intérêt, alors c'est pour ceux qui déposent la première fois, les taux d'intérêt sont arrêtés à la date de recevabilité.
Exactement,
les taux d'intérêt des crédits, ça c'est important.
Des crédits, oui, oui.
C'est
oui.
Important, il faut le savoir. Alors, c'est une nouveauté de la loi Hamon. Avant, c'était un peu plus loin que ça arrêtait le cours des intérêts. Mais la recevabilité, aujourd'hui, elle a un impact très fort dans les relations entre le surendetté et les créanciers.
Exactement. Alors, les taux d'intérêt s'arrêtent. Le créancier vous fait parvenir un échéancier. Et, bon, évidemment, il faut s'y tenir.
Oui.
Bien évidemment, vous ne pouvez pas refaire de comment dirais-je, de prêt bancaire.
Oui.
Mais bon, je dirais c'est normal.
Ben, on est dans une phase de désendettement. Donc, avant de se réengager dans des dépenses, il faut d'abord apurer la situation.
Voilà, c'est donc, ça.
Je crois que c'est vraiment dans l'esprit, c'est presque du bon sens. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que au moindre incident, moi, je n'hésite pas à retourner vous voir, à retourner voir la personne qui s'est occupée de mon premier dossier pour lui demander vraiment des conseils, quoi.
Alors, ce que vous nous dites, ça relève de la question du contact qu'on doit garder, hein. Parce qu'à un moment donné, un dossier de surendettement, c'est pas un simple acte qui consiste à remettre au secrétariat de la commission un document. Oui. Derrière, il y a tout ce qui va se passer avec les créanciers. Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont réagir ou pas? Et dans votre vie, eh bien, il peut y avoir des événements qui remettent en cause, comme ça a été le cas pour vous,
oui.
Le plan. Et si vous faites l'autruche, si vous ne réagissez pas, ça va jouer forcément contre vous.
Non, non, je l'ai fait assez longtemps. C'est comme ça que j'ai abouti au premier plan. Alors maintenant, c'est terminé, quoi. Non, non, il ne faut pas hésiter. Et je dirais que j'étais vraiment, vraiment dans une situation que j'estimais désespérée,
oui,
en 2011. Et finalement, petit à petit, on arrive à remonter la pente.
Je crois qu'aujourd'hui, vous le dites, hein, il y a de l'espoir. Et ça, c'est,
oui,
c'est vraiment un point crucial dans la sortie de la difficulté. C'est que vous étiez au bout du rouleau. Hein, vous étiez baissé les bras. Et il faut redonner cet élan, hein, parce que rien n'est, comme on le dit à Crésus, hein, le surendettement n'est pas une fatalité.
Je pense que non, mais j'avoue avoir été, victime de quoi, de facilité, de prêts possibles bancaires avec un fameux conseiller financier qui vous permet toujours d'arranger votre situation, et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que au lieu de vous arranger vous, il s'arrange lui. Et en fait, au bout d'un moment, vous n'y arrivez plus, quoi.
Exactement. Alors, vous savez que Crésus défend le fichier positif. Vous savez, ce fameux registre des crédits, registre national des crédits, qui n'est pas passé actuellement parce que le Conseil constitutionnel a censuré.
Oui, c'est ça. Voilà. Il a été censuré, oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce fichier positif? Est-ce que vous êtes favorable à ce type de mesures pour protéger les consommateurs?
Moi, je pense que oui.
Oui.
Il faut parce que bon, je pense que il y a beaucoup de jeunes qui se rendent pas compte.
Oui.
Parce que le discours des banques est quand même excessivement séduisant.
C'est vrai.
Et on se laisse prendre. Alors évidemment, vous allez me dire si on est une personne responsable, on fait attention, etc. Moi, je veux bien. Mais les séductions de la société de consommation sont telles que assez rapidement on se laisse prendre.
Alors comment faire pour résister, en tout cas pour avoir suffisamment de recul, hein, ça c'est une question qui se règle à travers aussi la sensibilisation budgétaire. Hein, il y a tout un travail de prévention à faire en direction de nos concitoyens et pour aussi les armer.
Oui, je pense qu'il y a ça à faire. Il y a à dire aussi que le fait d'avoir comme ça des cartes que les commerçants vous donnent de façon très laxiste, hein, ça aussi c'est quelque chose qui finit par vous plomber aussi votre budget. Et surtout, je dirais, cette impression de virtualité, hein.
Oui.
L'argent est virtuel, on paye pas avec des vrais sous. Et puis la banque est virtuelle, puisque maintenant elle passe par votre téléphone.
Et oui, donc il y a une dématérialisation.
C'est difficile, je dirais.
Alors Jeanne, pour conclure votre interview, si vous aviez des conseils ou des bons mots à dire à nos auditeurs pour terminer.
Ah, alors, faire ce que je n'ai pas fait pendant longtemps, c'est-à-dire vraiment faire attention à son budget, à prévoir d'avance, à anticiper, voilà. Se méfier du discours des banques et au moindre, dérapage, faut pas laisser les choses s'envenimer. Et je dirais que vraiment Crésus, aussi bien sur le plan juridique que financier, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et on ne vous juge pas. Donc ça aussi,
ça c'est...
c'est très important, parce que les cabinets d'avocats sont là pour ça, pour vous juger, ils vous font comprendre.
Merci Jeanne pour toutes ces précisions claires sur la procédure de surendettement et aussi sur notre société dans laquelle nous vivons.
Oui.
Vous avez un esprit et une voix, comme je l'ai dit, très claire, et je pense que nos auditeurs sont très sensibles à votre témoignage. Merci beaucoup. À bientôt.
Je vous en prie.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Voilà, après le témoignage de Jeanne, qui était très très éloquent, nous avons avec nous Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Voilà, j'ai avec moi Marilyn Vechter de la Chambre de Consommation.
Bonjour.
Qui est juriste, qui pourra aussi apporter des réponses à certaines de vos questions. Alors Jean-Claude, vous avez déposé un dossier de surendettement?
Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, je suis venu voir Crésus pour déposer un dossier de surendettement.
Oui.
Et il se trouve que j'ai finalement décidé de ne pas le déposer.
Ah, alors expliquez-nous ça.
Donc en fait, quelques mois après, je me suis retrouvé dans une situation à perdre mon emploi. Et vraiment très embêté de ne pas avoir déposé ce dossier, car aujourd'hui, si vous voulez, c'est encore plus compliqué qu'avant. Parce que suite à la perte de l'emploi, la perte de revenus et une indemnité de licenciement qui était à peine suffisante à rembourser quelques de mes dettes, a encore engendré un mois ou deux de carence Pôle emploi.
D'accord. Alors pour être précis pour nos auditeurs, donc quand vous étiez en activité, vous arriviez à quelle moyenne de revenus par mois, à peu près?
J'arrivais à une moyenne de 1300 euros net.
1300 euros?
Ouais.
D'accord. Net. Donc c'est un peu plus que, grosso modo, le SMIC, un peu plus?
C'est ça, un peu plus.
D'accord.
Je suis éducateur, donc c'était à peu près c'est le palier auquel je me suis arrêté.
D'accord. Donc, ensuite, perte d'emploi?
Voilà, donc perte d'emploi, une équipe avec laquelle ça se passe pas trop bien. Je m'attendais pas trop à ça, j'étais en CDI, et pourtant, perte d'emploi quand même.
Oui.
Décision avec la direction de CC.
D'accord. Et là, vos revenus chutent?
Chute à 920 euros par mois. Donc,
d'accord.
Déjà avant, je m'en sortais plus. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous donc auprès de Crésus. Et maintenant, c'est juste complètement impossible. Hein. J'ai des arriérés de loyer. J'ai un crédit, je dirais, auprès d'une banque avec qui j'étais avant, que je dois rembourser.
Oui, voilà, c'est important. Prix. Oui, c'est le capital et de quel ordre? Pardon, de quel ordre le capital?
Le capital est de 7300 euros.
D'accord, 7300, voilà. Oui, donc c'est le seul crédit que vous avez ou il y en a d'autres derrière qui poussent?
C'est le seul, mais suite à la chute donc de mon revenu, là j'ai vraiment du mal à payer et mon loyer et mes échéances par rapport au crédit, ainsi de suite. Alors j'ai vu une conseillère économique, sociale et familiale récemment pour pouvoir justement mettre en place ce dossier.
D'accord, vous l'avez vu à Crésus ou ailleurs?
Alors Je ne suis pas retourné à Crésus, mais c'était simplement parce que je suis sur Schiltigheim et donc je suis allé voir vers la mairie de Schiltigheim.
Oui, monsieur. Tout à fait possible. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs hein, qui travaillent sur la prévention du surendettement, et notamment les conseillères en économie sociale et familiale. On peut les retrouver dans les centres communaux d'action sociale, les mairies. L'essentiel,
dans
c'est...
les mairies, justement, le message est communiqué aussi pour Crésus, quoi. Hein,
Oui, on travaille généralement en partenariat avec les acteurs sociaux. Hein, donc ça, c'est important, c'est fondamental pour nous aussi dans le traitement des difficultés, hein, parce que c'est en mettant des solutions communes qu'on arrivera à aider nos concitoyens plus rapidement à sortir de la difficulté. Je crois que ça, c'est important.
Ouais, tout à fait.
Alors, vous dites, OK, baisse de ressources, aujourd'hui 920 euros, des arriérés de loyer qui s'élèvent à combien ? 1000, 2000, 3000 euros ?
2000 euros. Là, je suis à 2000. Enfin bon,
alors attention, hein, parce que. Hein. Oui, alors attention, parce qu'il y a des mesures d'aide justement aux locataires en difficulté financière, notamment à travers le Fonds de solidarité logement. Vous voyez, avec la conseillère en économie sociale, c'est peut-être déjà fait, hein, s'il y a une aide possible. Ouais.
C'est quelque chose qui est que je suis censé demander à la caisse d'allocation familiale.
Non, c'est plutôt à travers une demande d'un travailleur social. Hein. Allez voir un travailleur social, c'est la CESF, une assistante sociale, qui va introduire une demande. Donc il faut bien étudier votre situation. Il ne faut pas trop attendre, parce que si vous cumulez trop d'arriérés de loyer, ça va vous empêcher de bénéficier de l'aide.
D'accord.
Donc il faut être vigilant sur ce point-là. Hein. Donc ne tardez pas trop. On voit qu'avec le crédit et la banque, effectivement, il y a un certain montant. Alors vous êtes certainement aujourd'hui surendetté. Alors c'est un surendettement qui est, on va dire, certain, mais qui n'est pas encore gravissime. Hein. À Crésus, on a l'habitude de voir des niveaux de surendettement qui dépassent les 100 000 euros en crédit à la consommation.
Tout à fait. Hein.
Donc vous êtes encore, vous êtes dans une situation où les choses peuvent vite s'aggraver, je dirais, ou encore plus s'aggraver, mais il est temps d'agir. Hein.
C'est ça, c'est-à-dire que justement, je pense que je m'y prends au bon moment. Maintenant, si j'avais tout simplement déposé mon dossier de surendettement au moment où je suis allé voir, justement, prendre rendez-vous à Crésus, peut-être que ça m'aurait empêché d'être encore plus aujourd'hui... dans cette situation-là, si vous voulez, parce que j'aurais dû juste le déposer avant. Parce que maintenant, je suis censé attendre que la Banque de France veuille bien recevoir mon dossier. Et je dois dire, c'est en fait, même si c'est pas une somme qui est très gravissime, je suis déjà, moi, personnellement, je dors plus. Je sais plus comment faire. Même rechercher du travail, ça a l'air un petit peu compliqué. À l'heure actuelle, parce que je suis dans un niveau tel de stress que je ne sais plus trop comment...
Vous avez raison de nous en parler, parce que certes, votre niveau d'endettement, de surendettement, il est caractérisé. Comme je disais, je relativisais tout à l'heure en disant effectivement, là, vous avez un montant d'endettement qui existe, mais toute proportion gardée. C'est vrai que quand on est surendetté, quand on a des difficultés financières, peu importe le niveau d'endettement, ça a un impact sur la psychologie, sur le moral. On craint que le créancier vienne à notre porte frapper et nous réclamer ce qu'on lui doit, qu'il nous fasse déplacer l'huissier pour qu'il y ait des saisies, etc. etc. On n'a pas la conscience tranquille, on dort mal, vous avez raison, tout ça, c'est un impact certain sur la santé. Alors aujourd'hui, concrètement, le dossier, vous l'avez déposé ou pas ?
Oui, donc le dossier a été déposé et ça fait à peu près 2 mois, mais...
Est-ce que vous avez une réponse de la commission ?
Pour l'instant, non.
D'accord.
J'ai reçu une attestation de dépôt, hein, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse positive.
Ni négative.
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour l'instant.
D'accord. Donc ça va arriver, hein, généralement et légalement. Ce qui est prévu, c'est 3 mois pour la commission pour se décider entre le moment où vous déposez le dossier. Et la décision qu'elle doit prendre, maximum 3 mois, donc ça ne devrait pas tarder.
C'est ça, c'est
d'accord.
Ça. J'ai déposé au mois de février, donc ça devrait pas tarder.
Ça devrait pas tarder. Voilà, alors bien sûr, on vous accompagne dans le cadre de ce dossier de surendettement si vous le souhaitez. Vous êtes avec une CESF actuellement, donc vous pouvez rester avec la CESF. Nous, je dirais que. On garde nos portes ouvertes. Hein, si à un moment donné vous avez des questions sur le dossier, vous savez qu'on a une disponibilité pour vous.
Bien sûr. Je tiens vraiment à préciser que des organismes comme Crésus, surtout aujourd'hui, parce que ça devient de plus en plus, la vie, enfin tout devient de plus en plus cher, sont vraiment essentiels et c'est vraiment une bonne chose que.
On sait que souvent ce qui fait défaut, c'est une écoute experte qui vous permet d'à la fois de pouvoir exprimer vos difficultés, qu'on identifie clairement votre problématique et qu'on apporte une réponse précise. Et qu'on évite de vous faire du porte-à-porte en vous disant « Ah ben non, c'est pas nous, c'est l'autre », et etc., etc. Et à un moment donné, il faut quand même que vous arriviez à vous ancrer vers une structure, vers un professionnel. Alors, que ce soit une CESF, c'est très bien. Que ce soit Crésus, c'est très bien. Je veux dire, on n'a pas le monopole des réponses. Mais à un moment donné, il faut trouver la bonne porte à laquelle frapper. Et ça, c'est fondamental. Si vous aviez un mot pour nos auditeurs, pour terminer notre interview, Jean-Claude.
Un mot, n'attendez pas que vous soyez vraiment dedans pour faire les démarches, parce que une fois qu'on est dedans, on n'en remonte pas, quoi.
En tout cas, on n'en remonte pas si facilement.
Enfin, on en remonte, mais avec une pression telle qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, quoi.
Oui.
Alors, c'est peut-être une impression, parce qu'il y a toujours des solutions, heureusement, mais c'est voilà, c'est juste prenant aux tripes, voilà.
En tous les cas, il faut garder espoir. Parce qu'on n'est pas seul au monde.
Juste, peut-être éventuellement juste une question pour la personne qui est juriste, qui est avec nous, je crois.
Oui, Marilyn Vester, oui.
Voilà, Marilyn Vester, je voulais juste poser une question. J'ai récemment eu des appels de Natixis Financement, donc de ma banque précédente, qui mettaient une certaine pression.
Oui.
Et ils disaient comme quoi qu'ils étaient indépendants de la Banque de France et que eux pouvaient de toute façon venir avec des huissiers chez moi. Bon,
oui,
pour l'instant, il n'y a rien qui a été lancé.
Et
tout de suite, ils m'ont appelé en me parlant de venir chez moi pour une récupération à domicile, comme quoi personne n'était mandaté, personne ne m'a fixé financement.
Bon, ça, ce sont des moyens de pression, je dirais qu'ils sont malheureusement assez classiques, d'ailleurs, de la part de certains établissements financiers, surtout s'ils ont été mis au courant de votre intention de dépôt de dossier de surendettement. Maintenant, ce qu'il faut simplement garder à l'esprit dans l'immédiat, c'est que pas plus une banque que n'importe quel autre type de créancier ne peut venir envisager des saisies chez vous tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice qui vous condamne au paiement, puisqu'un huissier a besoin précisément de ce qu'on appelle un titre exécutoire, donc une décision de justice à vous présenter pour pouvoir procéder aux saisies. Donc tant qu'il n'y a pas eu de condamnation en justice, il faut vraiment le prendre simplement comme une tentative de pression pour essayer de vous faire céder. Mais il n'y a pas lieu pour l'instant, je dirais, de paniquer par rapport à ça.
Et juste une précision, Jean-Claude, c'est que il y a des choses aussi qu'on ne peut pas saisir
également,
chez les gens.
Oui. Des choses insaisissables de toute façon, le minimum, comme votre lit, une table, des chaises, le réfrigérateur, c'est... Il y a toujours de toute façon des choses qui de toute façon n'entreraient pas dans le cadre d'une saisie, même suite à un jugement.
Alors ça ne veut pas dire que votre banque ne va pas essayer d'obtenir un titre exécutoire. Ça, c'est une chose. Après, qu'elle le fasse exécuter, c'est une autre question. En tous les cas, quand vous aurez votre décision de recevabilité, manifestement, il ne devrait pas y avoir de difficultés. La décision de recevabilité de la commission de surendettement, elle met un coup d'arrêt aux saisies. Voilà.
Ouais.
Donc vous êtes protégé le temps que la commission trouve une réponse. Donc recevabilité, les huissiers restent en veille, en stand-by, ils ne peuvent rien faire. Et on attend la réponse de la commission sur les solutions proposées. D'accord ?
D'accord.
Vous êtes rassuré là, Jean-Claude, c'est bon ?
Oui, c'est vrai que c'est rassurant d'entendre ça. Et puis. Je suis dans un stress permanent actuel,
Oui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à un moment donné à contacter Crésus, d'accord ?
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Jean-Claude, à bientôt sur Radio Crésus.
À bientôt.
Au revoir.
Oui, au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. la radio qui vous aide.
Vous êtes sur Radio Crésus et nous entendons Philippe qui témoigne. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus, d'exposer votre situation, peut-être les difficultés que vous avez rencontrées pour surmonter certaines choses. Et donc, on vous écoute, tout simplement, Philippe.
Bah, écoutez, je me suis retrouvé suite à un divorce et une séparation et la perte d'un emploi dans une situation qui est devenue de plus en plus embarrassante. Et ne pouvant petit à petit plus du tout faire face aux engagements financiers que je pouvais avoir, que ce soit sur les remboursements de prêts et ne serait-ce que pour assurer le quotidien, j'ai sombré petit à petit et jusqu'à réagir en me disant qu'il y avait des organismes qui existaient type Crésus que je suis allé voir. Voilà, j'ai pris le taureau par les cornes, je suis allé le voir et j'ai rencontré là-bas un conseiller qui a été particulièrement attentif à ce que je lui racontais et qui m'a expliqué ce qu'il fallait que j'entreprenne. Donc j'ai entrepris les démarches ensuite pour régulariser ma situation.
D'accord.
Oui, je vous en prie.
Oui, donc une question sur le... En combien de temps, effectivement, votre situation a basculé ?
Ça a bien pris une année et demie, oui.
D'accord.
Oui, on essaye de faire face, on essaye de se faire aider, d'abord la famille, et puis des proches, et puis les amis, et puis on essaye aussi auprès des organismes financiers, mais quand ça devient compliqué, il n'y a plus personne qui vous aide, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Donc en fait, on ne fait qu'accroître, je dirais, les mensualités de ce qu'on doit, et donc ça devient inexplicable, quoi. Et par contre, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, j'ai pas eu le réflexe de réagir plus rapidement non plus, parce qu'on pense toujours qu'on va pouvoir s'en sortir. Je pensais pouvoir retrouver un emploi aussi plus rapidement, et ce n'a pas été le cas. Donc,
vous travaillez dans quel domaine d'activité ?
J'étais ingénieur commercial, j'étais dans les télécoms avant.
D'accord. Et c'est vrai que, manifestement, donc vous avez... subi deux accidents de la vie, hein. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, même si c'est pas très joli.
Oui, exactement,
hein.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà, donc...
oui, c'est les accidents de la vie, exactement.
Voilà,
oui.
Alors, accident ou pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ça a un impact sérieux...
Un impact majeur, effectivement, dans la situation, oui, tout à fait.
Sur l'équilibre budgétaire, alors on ne parle pas de l'aspect psychologique qui est aussi important, je dirais, dans le rétablissement de sa situation, hein. On le sait aussi que, à travers les témoignages précédents, que la dimension psychologique, elle peut soit favoriser la sortie, soit au contraire...
Au contraire, exactement. En l'occurrence, dans mon cas, ça a été l'effet contraire, oui.
Voilà, il y a toujours un choc, une onde de choc, hein, qu'on doit subir, et qui nous laisse un peu dans une forme de torpeur, on va dire, qui nous donne du temps avant de réagir. Alors, vous avez décidé à un moment donné de réagir, vous vous êtes dit, ok, là, il faut que je demande de l'aide, parce que c'est ça, finalement.
Exactement, c'est ça, tout à fait.
Voilà. Alors, est-ce que psychologiquement, c'est difficile de passer ce cap en disant, là, je crois que j'ai un espoir de m'en sortir seul, mais je me rends compte que cet espoir, eh bien, ça m'ennuise, et aujourd'hui, je suis au fond du gouffre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on...
Ah ben justement, je pense que d'une part l'entourage, hein, qui pousse aussi à réagir, et puis une prise de conscience que de toute façon, à force de tirer sur la corde, elle finira par céder et qu'on n'y arrivera pas seul. Donc c'est se tourner, un organisme comme Crésus est là pour ça. Donc c'est différentes sollicitations qui font qu'on se résout à y aller, à se prendre en main, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. À un moment donné, il faut réagir. Donc,
Alors, est-ce qu'on a une appréhension ? Voilà. Parce qu'on va changer quelque chose, hein ?
Oui, c'est certain, oui. Oui, il y a une appréhension, oui. Il y a une appréhension. Tant qu'on n'a pas franchi le pas et rencontré une personne... qui vous explique un petit peu comment ça va se passer. Oui, on a une grosse appréhension. Oui.
Et justement, alors cette appréhension, elle se manifeste comment ou elle s'exprime comment ? Est-ce que c'est une crainte d'être jugé ? Est-ce que c'est...
Oui, je pense que il y a une bonne part de ça. Oui, il y a une bonne part de la réaction de la crainte de la réaction des autres. Ouais. Et puis finalement, on se dit que c'est pas en se préoccupant effectivement de la vie ou de l'opinion des autres qu'on s'en sortira non plus. Donc, et les autres ne sont de toute façon pas là.
en plus,
à un moment donné, ils ne sont plus là. Donc il faut prendre les choses en main, et je pense qu'il n'y a pas d'autre, échappatoire, quoi. Il n'y a pas d'autre échappatoire, et faire fi un petit peu de l'opinion des autres à ce moment-là.
Alors c'est vrai que dans l'aide qu'on peut apporter à Crésus, on se rend compte que bien souvent, c'est ce premier pas qui est difficile à faire. Il est déterminant pourtant pour une sortie des difficultés, mais plus on tarde et plus effectivement on s'éloigne de la solution.
Et plus la situation généralement s'aggrave, hein, c'est pas, elle va pas en s'arrangeant, donc je pense qu'il faudrait.
Et plus elle s'aggrave, plus on se dit que je vais rien faire parce que de toute façon tout est fichu.
Oui, tout est fichu, oui. Alors que ce n'est pas le cas.
Alors que ce n'est pas le cas, et c'est important. Donc vous avez franchi le pas, vous êtes allé voir un permanent à Crésus. Donc l'accueil s'est fait, je dirais, naturellement.
Oui, tout à fait. Ouais. Vraiment très, très simplement, très naturellement, sans aucune difficulté.
Voilà. L'écoute, comment vous l'avez perçue de ce conseiller Crésus?
Très bonne, parce qu'en plus quelqu'un de renseigné et d'initié, donc qui sait employer les mots justes, quoi. C'est ça qui est aussi, on n'est pas, il y a absolument aucun jugement, il y a pas d'alerte, il y a pas de mise en garde, ça se fait très très naturellement, très simplement. Oui.
Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse le point sur votre situation, et il faut qu'on la prenne telle que vous la présentez avec tous ces éléments.
Tout à fait, oui.
Je crois que ça, c'est
aussi... l'importance aussi là, en l'occurrence, d'être très exhaustif, hein, et vraiment, c'est là que le conseiller était. Enfin, je dis des gens expérimentés parce que ils savent aussi globalement. Je pense que tout le monde souffre à peu près des mêmes choses dans ces situations-là.
Oui.
Et par contre, parfois, on peut omettre certains points, et là-dessus, ils sont très vigilants. Donc, ça permet effectivement de balayer tout le spectre de ce qui conduit à cette situation-là. Ouais.
Alors c'est vrai que quelquefois, on omet de parler de choses qui sont pourtant très importantes, hein, dans la situation,
ouais.
Mais parce qu'on les vit au quotidien et qu'on a tendance à...
On n'a plus aucune clarté d'esprit sur ce qui se passe, effectivement.
Ah oui, et donc là, ça permet un peu de revoir les choses et de prendre du recul, tout simplement. Je crois que c'est ça, hein, dans le dialogue.
C'est essentiel, oui.
Parce que d'une certaine manière, je dirais que à Crésus, on amène aussi vers une forme d'accouchement, hein. Il faut faire sortir la réalité de la situation. Il faut qu'elle apparaisse à la fois pour le conseiller qui va venir vous apporter une réponse, parce qu'il faut qu'il ait tous les éléments. Mais souvent, cet accouchement, on va dire, il a aussi un côté, je dirais, thérapeutique pour celui qui va le recevoir, enfin qui va le faire, parce qu'il va aussi se rendre compte.
La prise de conscience vient au fur et à mesure de la discussion. Oui.
Voilà, c'est ça. Et ça fixe aussi les choses après sur les solutions à apporter.
Exactement.
Ça, je crois que c'est fondamental. Alors, techniquement, sur le travail qui a été réalisé, donc accueil, écoute, réponse. Aujourd'hui, vous en êtes où sur le... Est-ce qu'il y a un dossier de surendettement?
Aujourd'hui, j'ai un dossier de surendettement, effectivement, qui a été validé par la Banque de France. Je suis dans une situation où, de la même façon, je suis allocataire du RSA.
Oui.
Et donc, un plan d'épurement de ma dette a été fixé. Donc la dette n'a pas été effacée.
Oui.
Mais un plan d'épurement de ma dette a été fixé par la Banque de France. Voilà.
D'accord. Sur une période bien définie.
Pour une période, oui, tout à fait, ouais. Une période de 2 ans qui a été définie, oui.
Donc c'est une période qui est courte. Est-ce que, à l'issue de ces 2 ans, est-ce que vous aurez encore des dettes ou pas?
Normalement, elles seront totalement apurées, oui.
Donc vous les remboursez progressivement là actuellement, ou c'est un gel?
Ce sera à partir, il y a un gel pendant 2 ans,
oui.
Et ce sera à partir d'ici 2 ans, en fait.
D'accord.
Me laisser le temps, effectivement, de retrouver une situation qui soit
au niveau convenable, au niveau de l'emploi.
Voilà, c'est ça, au niveau de l'emploi.
D'accord. Parce que là, on est bien dans le cadre d'un moratoire, c'est-à-dire que vous avez une situation, un accident de la vie qui fait que vous avez perdu des ressources.
Oui,
vous avez une baisse drastique de la capacité de remboursement.
Oui, tout à fait, oui.
Donc là, elle est sûrement fixée à zéro, votre capacité.
Mm-hmm.
Et donc là, il y a un gel des créances.
Tout à fait.
Considérant que à l'écoute, hein, vous êtes une personne qui est en pleine capacité de ses moyens et est en capacité de travailler. La question, c'est de retrouver l'emploi. Et du coup, exactement, comme vous avez un espoir de retour à meilleure fortune, on va revoir la situation dans 2 ans et voir où vous en êtes.
Exactement ça.
Voilà. Et à voir si effectivement le dossier de surendettement va se poursuivre par un redépôt. Hein, donc il faudra passer par là. Ou si votre situation s'est améliorée, à ce moment-là, les choses reprendront leur cours naturellement.
C'est ça.
Philippe, est-ce que vous avez des questions techniques sur le dossier, sur ou peut-être
oh, non, absolument pas. Enfin, tout a été tellement clairement. Enfin, les choses se sont enchaînées tout à fait. Encore une fois, je reviens très naturellement, très très spontanément, très simplement, fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était dans un premier temps une étape difficile à franchir. Et puis après, je me suis rendu compte que on a peut-être dû le faire plus rapidement, plus tôt. C'est le conseil que je peux donner aux personnes qui se retrouveraient dans ces situations-là. Ne surtout pas attendre, en fait, et franchir ce pas, parce que c'est un pas vers la solution, en fait. Vers la oui. solution, vers une ensuite, même si, comme vous le disiez, les dettes sont gelées, enfin, disons qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. C'est des choses qui sont très désagréables qui s'arrêtent. Je fais allusion aux huissiers et tout ce qui s'ensuit. Oui. Et aux recommandés, voilà, toutes ces choses-là s'arrêtent. Et rien que ça, c'est pour la tranquillité de l'esprit pour se refaire psychologiquement, c'est très très important.
Oui, c'est vrai que ça participe à la sérénité, à votre sérénité, et aussi.
Ah oui, tout à fait. Ouais,
ça vous permet de recentrer votre énergie sur les solutions de sortie.
Sur d'autres choses, ouais, c'est ça. Et sur les solutions de sortie, tout à fait. Ouais.
Exactement. Philippe, oui. Si vous aviez en oui. un mot un conseil à donner à nos auditeurs.
Oui, ben, je vous le disais, oui. Franchissez le pas.
Faites le pas alors. Hein.
N'attendez, ouais, faites le pas, surtout n'attendez pas.
Ben voilà, Philippe, tout est dit, hein. Bougeons. Merci beaucoup oui. pour votre témoignage qui
Mais
était très, très, très clair et puis surtout qui nous a apporté aussi des éléments sur la dimension psychologique hein, qui est pas négligeable.
Essentiel. Hein. Hein. Ouais, ouais,
essentiel. À bientôt, Philippe. Merci.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.